Bonjour, bon dimanche. Je sais, c'est la première fois que nous faisons cela. Nous sommes là, vous êtes tous là dans la chapelle et je ne suis pas là. Je suis en Afrique en train de prêcher aussi dans une église, mais je suis donc au Togo, à Lomé en ce moment. Mais j'ai enregistré ce message pour vous et c'est bien que vous soyez venus ce dimanche au culte. Et que Dieu vous bénisse, vous aussi qui êtes sur Internet ce matin. Je voudrais que nous lisions Marc chapitre 4, verset 35. Je ne vais pas être très long parce que je sais que ce n'est pas très amusant d'être là assis en randonnion et puis d'écouter une voix qui sort d'un haut-parleur sans voir le prédicateur. Ça n'est pas rigolo parce qu'on n'a pas là, vous n'avez pas l'habitude, mais bon, voilà, nous allons faire ça ce matin, c'est exceptionnel. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi est-ce que vous avez eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà que Jésus dit aux siens: Pessard, c'est-à-dire passons de l'autre bord. Et ils renvoient la foule, ça prend quelques minutes, et puis ils emmènent Jésus à la barque. Il devait être drôlement fatigué, Jésus, parce qu'ils l'emmenèrent à la barque. C'est écrit un petit peu comme si Jésus ne pouvait pas y aller tout seul, mais qu'il fallait que ses disciples l'emmènent, le conduisent, enfin peut-être qu'ils l'ont pris par la main. Je sais pas, il devait être exténué, il avait eu une terrible journée. Enfin bon. Et puis il y avait peut-être aussi des gens un peu collants qui voulaient encore le toucher, lui poser une question. Et alors, ils ne voulaient pas partir. Et donc voilà, ils l'emmenèrent à la barque qui se trouvait là. Et la barque s'éloigne du port. Mais pas toute seule. Pas toute seule. Il y avait d'autres barques qui suivaient. Avez-vous remarqué ça? Et assez rapidement, il y a un grand tourbillon qui s'élève. L'eau commence à rentrer dans la barque. Tiens, pas dans les autres barques? Moi, à mon avis, oui, hein. Et quand les passagers des autres barques ont vu que la tempête arrivait, que ça commençait à sentir un peu le danger, ils ont fait demi-tour. Et on n'entend plus parler d'eux. Voilà. Et Jésus s'endort. Vous savez, Jésus vivait selon les lois de la santé humaine, mais il était épuisé par sa journée, mais il ne permettait pas à son corps de dominer son esprit. Ses activités, bon, il avait des activités quotidiennes très épuisantes, qui devaient mettre son énergie physique et mentale à contribution très fortement, mais ça n'entraînait pas de dysfonctionnement, de trouble. Après avoir travaillé, il dormait. Dormir après avoir travaillé, c'est naturel, c'est nécessaire, hein. Si vous avez travaillé physiquement, mentalement, là, vous avez une bonne vieille grosse fatigue, vous allez vous écrouler sur votre lit. Ayant terminé le travail de la journée, Jésus dormait. Et on a lu ce qui s'est passé. La tempête qui a fait fuir les barques qui suivaient, hein, et comment Jésus calme la tempête. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que dans cette barque, c'était le même qui, parmi les chaos des premiers stades de la restauration du monde, avait commandé que la lumière soit, ou qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, ou que le sec apparaisse. Quand il avait commandé à ce moment-là, eh bien, les effets avaient été immédiats. Il n'y avait pas besoin de la foi pour le faire. Simplement une autorité naturelle. Parce que Dieu, sa nature, c'est comme ça. La domination du Créateur sur la création est réelle et absolue. Et quand il est dans un corps humain, ben c'est encore la même chose, c'est toujours le même Dieu. Il dit au vent, tais-toi, puis voilà. Alors, souvenez-vous que quand Dieu nous a créés, il nous a donné, il nous a confié une partie de cette domination. On trouve ça dans Genèse. Et nous étions sa postérité. incarné à son image. Mais bon, ensuite, à cause du mélange avec le serpent, on a perdu cette domination, ça nous a été retiré. C'est tout à fait conforme à la malédiction qui a entraîné Adam dans sa chute, c'est normal. Mais maintenant, pour dominer la création, parce qu'on a ça en nous, étant créé à l'image de Dieu, il nous reste des vieilles, c'est dans nos gènes. Alors, on doit avoir recours à des efforts musculaires terribles, et on sue, et on doit se tordre les méninges pour arriver à ce qu'on veut. C'est plus simplement, comme ça, par un ordre que les choses se font, comme ça aurait dû être au commencement. Il n'y a pas que nous qui avons perdu dans cette histoire. Toute la création, la Bible nous dit, toute la création, toutes les forces élémentaires qui s'y rapportent, tout ça s'est tombé sous la malédiction d'Adam. Et c'est pourquoi la terre ne produit pas seulement que des bonnes choses, mais aussi toutes sortes de ronces, d'épines, enfin voilà. Et les forces diverses de la nature ont cessé de nous obéir. Elles ne sont plus des forces assujetties à notre contrôle direct, parce que nous avons chuté. Par exemple, ce que nous appelons les forces naturelles, la chaleur, la lumière, l'électricité, tout ce qui concerne les affinités chimiques, tout ça, c'est des manifestations de l'énergie éternelle par lesquelles les objectifs du Créateur sont mis à exécution. Mais nous, pour arriver à les dompter, ces forces naturelles, on était très ingénieux, hein. Pour pouvoir les utiliser, on a inventé toutes sortes de machines. Voilà. Mais gloire à Dieu, un jour la terre sera renouvelée et recevra sa part du paradis. Et la terre, l'eau, l'air, bref, toutes ces forces qui agissent répondront directement aux ordres de l'homme glorifié. Parce que elles nous obéissent plus maintenant parce que nous avons perdu notre crédibilité. Mais si nous sommes des gens, quand nous serons des gens glorifiés, quand nous aurons retrouvé notre véritable nature de fils et de fille de Dieu, eh bien, elles nous répondront directement, nous n'aurons même plus besoin de la foi. Ils obéirent, à ce moment-là, le vent, la mer, à Jésus de la même manière qu'au début, quand Dieu a restauré toute cette création qui avait été rendue informée vite. Jésus dit, tais-toi, et ça y est, ça se fait. Alors Paul nous parle de cette création qui soupire. Alors on va lire ça dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 21-23. Voyons, où est-ce que c'est? Alors, on va lire déjà à partir du verset un peu plus haut, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, même nous qui avons les prémices du Saint-Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire le rachat, la rédemption de notre corps. Notre corps n'a pas encore été racheté. Et nous attendons ça et nous soupirons. Paul parle de ça. Mes frères et sœurs, la création entière devra passer par une nouvelle naissance, donc par une mort. Et c'est pourquoi les Écritures, des textes sacrés, nous disent au sujet des éléments qu'ils vont fondre sous la chaleur, au sujet de la terre qui va se consumer, du ciel et de la terre qui vont être roulés comme un vieux livre, et il y aura une nouvelle terre, comme il y a eu un nouvel Adam, comme nous aurons bientôt un nouveau corps. Mais de tout cela, en ce moment, nous vivons, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. Et nous autres, qui avons les prémices de l'esprit, eh bien, même avec les prémices de l'esprit, nous ne sommes pas encore au top. Paul dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation contre nous. C'est vrai que toutes choses sont nouvelles. Pourtant, il écrit aussi que nos corps n'ont pas encore été rachetés et que nous soupirons. Vous voyez, nous soupirons, et c'est vrai que nous soupirons avec toute la création, nous soupirons. C'est des soupirs, c'est pas, nous ne nous amusons pas ici-bas en attendant la révélation de ce que nous sommes réellement, hein, selon Romains 8, 19. La manifestation de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes, on l'est déjà, nous sommes déjà. Mais la manifestation de cela fait partie, mes frères et sœurs, du rétablissement de toutes choses. Je voudrais qu'on lise ce texte, parce que je vous en parle souvent. Là, je vais vous lire. Alors, c'est verset 19, acte 3, 19, c'est dit. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. » Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que, il y a un but, que le ciel, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En ce moment, pour vous qui vous êtes repentis et qui vous êtes convertis, qui avez changé d'attitude, changé de comportement, calqué vos comportements sur les bonnes lois de Jésus-Christ, alors il y a un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Mais il y a plus. Il reviendra. C'est la deuxième chose. Et qu'il envoie celui qui vous a été décidé, Jésus-Christ. Et puis alors il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que le ciel a reçu Jésus-Christ, il est monté au ciel, il a dit « je reviendrai ». De la même manière que je suis parti, je reviendrai. Mais il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses dont ont parlé anciennement les saints prophètes d'autrefois. Ce rétablissement ne vient que quand le peuple de Dieu se repent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se repentait, changeait de route. Voyez ? Alors il a commencé ce rétablissement lors de la réforme, lorsque les gens ont commencé à prendre conscience que ce n'était pas juste, la religion n'était pas juste, et ce rétablissement continue. Et les choses se font petit à petit, et plus les choses sont rétablies telles qu'elles devraient être, plus nous approchons du moment où Jésus va quitter le ciel pour revenir. Vous comprenez ça ? Je vous le redis tout le temps un peu d'une manière différente parce que je veux que ça rentre. De plus en plus, les enfants de Dieu s'approchent de leur vraie nature, de leur vraie possibilité, de leur vraie capacité, de leur vraie nature. Mais pour le moment, tout n'est fait que par la foi. Nous avons les prémices de l'Esprit. Il nous faut encore la foi pour manifester notre autorité. Foi en Dieu, Jésus dit croyez en Dieu, foi en lui, croyez ce qu'il dit, et foi en vous-même. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez, quand l'amour sera au-dessus de tout, au-dessus de l'espérance, au-dessus de la foi, l'amour c'est le plus grand, quand il y aura cet amour, eh bien, tout nous sera soumis, mes frères et sœurs. Même sans la foi, on n'aura plus besoin. Jésus n'a pas besoin de la foi pour créer les cieux et la terre. Et nous serons comme lui il est. Parce que cela, c'est normal pour lui. Et c'est normal pour sa postérité. Les êtres inanimés, les énergies, dans leurs manifestations diverses, les forces de la nature, les intelligences organisées, incarnées ou non, tout sera sous notre domination. Nous, on va retrouver notre pouvoir sacré de domination que Adam a perdu, et même plus que ce qu'Adam avait perdu. Et pour le moment, nous nous exerçons à ces pouvoirs par la foi. Par exemple, c'est par la foi au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nous ordonnons aux esprits de cécité de quitter les aveugles, que les aveugles se mettent à voir. Et toutes ces choses. Jésus, dans la barque, il parlait directement au vent et à la mer, et nous pouvons le faire en son nom, en nous recommandant de lui, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais alors, plus nous nous approcherons du rétablissement de toutes choses, plus nous nous approcherons de lui, plus nous nous approcherons de sa ressemblance, moins nous aurons besoin de la foi. Ça deviendra une nature. De nos jours, la terre est vraiment malmenée par l'homme. Et elle gémit. Si vous écoutez, vous allez l'entendre qui dit « Malheur, malheur à moi, je suis affligé, je suis fatigué à cause de la méchanceté des hommes. Quand est-ce que je vais pouvoir me reposer? Quand est-ce que je serai purifié de toute cette souillure humaine? Quand mon Créateur me sanctifiera-t-il afin que je me repose et que la justice demeure sur ma face ?» Dieu lui répond, « Tu te reposeras pendant l'espace de 1000 ans, quand Jésus viendra régner sur toi avec une verge de fer, sur les impies et les collabos de l'Antichrist. » Et mes frères et sœurs, en attendant cela, nous avons des armes, et notre arme est avant tout l'amour. Manifestons l'influence de cette arme. Et puis la seconde, c'est la foi. Manifestons l'influence de cette arme. Nous pouvons, par notre foi, faire opérer les forces qui agissent sur la matière avec une grande assurance. Jésus nous le dit. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transportera. Si vous croyez que ce que vous dites arrive, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, 20, Marc 11, 23, Luc 17, 6. Rétablissez cela dans votre vie. C'est dans votre vie que ça doit être rétabli. On ne peut pas simplement penser que ça va être rétabli dans un groupe. Non, c'est dans votre vie que ça doit être rétabli. Plus il y aura de vie en qui ces choses seront rétablies, plus cela nous rapprochera du retour de Jésus-Christ. Il faut que vous commenciez. Le rétablissement de toutes choses est en action. Entrez dans ce rétablissement. Parlez aux montagnes, au vent, à la mer, à la maladie, à la dépression, à l'argent. Parlez aux esprits, parlez avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez participants actifs au rétablissement de toutes choses par votre foi. Ou alors vous avez une autre solution. Vous pouvez pleurer, trembler, craindre, supplier, faire des reproches à Jésus, comme ceux qui étaient dans la barque. Ça, c'est la possibilité qui se trouve là, à portée de main. C'est celle des tièdes. Pour l'heure, Dieu, plein de miséricorde, répond à ceux qui pleurnichent et même qui lui font des reproches. Mais le temps vient où ça sera terminé. Puis vous avez une autre solution encore, c'est de faire comme ceux qui étaient dans les barques qui suivaient. Ils se sont tombés. Ça, ce sont les froids. Mais vous n'avez pas appris Jésus comme ça. Alors vous allez me faire le plaisir de vous ressaisir. Vous allez me faire le plaisir de rétablir votre foi et de vous remettre au travail avec amour, avec foi et avec espérance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je rentre bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.